m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache. Oui. Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour, les amis. Allez-y, installez-vous. Il pleut sur une grande partie du pays. Alors venez vous mettre au sec avec nous. La table va être belle et plaisante jusqu'à midi et demi. Direction la Provence, tiens, pour préparer Noël. Entre le grand aïoli et les 13 desserts, on va cuisiner les menus de fête à la provençale. Je suis bien accompagné comme tous les samedis. Voici mes bons vivants. Quand elle voyage, elle se laisse guider par le climat et les paysages, c'est sûr. Mais les bonnes tables sont déterminantes. C'est Charlotte Langrand du Journal du Dimanche. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, les cigales et l'assiette.
Exactement. Ils trouvent le goût des voyages dans ces bouteilles qui préservent l'expression de nos régions. C'est le bon vivant Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde et vive la Provence.
Et comment, on va la goûter, vous allez voir, et la déguster même. Et nous partagerons un joli plat de saison avec Catherine Jacob, fine cuisinière, vous entendez, et bonne vivante. Et bien voilà, c'est parti pour une heure et demie de plaisir. Alors, en voiture, en revenant ou en allant au marché, à la maison, faites comme nous, tiens, posez-vous la question, quel est votre goût de la semaine ? Je vous la pose, chère Charlotte.
Alors moi, c'est la choucroute d'Olivier Nasty, le meilleur ouvrier de France et 2 étoiles. Directement en Alsace.
Oui, c'est un chef alsacien, voilà. À Kaisersberg.
Voilà, et bien vous pouvez déguster jusqu'à demain soir sa choucroute parce que le chef Eric Fression de la brasserie Lazare à Paris fait des partenariats avec des chefs et leur propose leur plat signature ou leur plat phare aux Parisiens. Donc c'est l'occasion de s'offrir une choucroute purement alsacienne en direct. Et à partir de la semaine prochaine, ça sera la tartiflette d'Emmanuel Renaud.
Ah, c'est sympa, il y a comme bien. Ça des voilà. Transferts entre grands chefs. Donc il a donné sa recette à Eric Fréchon qui l'a fait pour les Parisiens.
C'est ça, donc choucroute ce week-end, tartiflette la semaine prochaine.
C'est joli ça, moi je prends, j'adore. Hein. Et vous, cher Olivier, votre goût de la semaine ?
Eh bien, une nouvelle adresse à Paris. Vous connaissez la grande chef Stéphanie Lequelec, qui
bien
est
sûr.
Son restaurant La Seine. Eh bien, depuis quelques jours, vous pouvez la retrouver chez MAM, qui est sa boutique de vente à emporter avec toute une série de produits. Alors, ce n'est pas ces plats 2 étoiles, mais c'est une belle cuisine de famille traditionnelle. Alors, on peut déguster, par exemple, le pâté en croûte de son mari, David Lequelec, absolument remarquable. Des pot-au-feu, des bœufs bourguignons, enfin bref, une cuisine qui se mijote, et puis toute une série de produits, c'est sa signature, et des pâtisseries de Pierre Chirac, qui est son chef pâtissier,
ah
a
oui.
tombé par terre.
Ça s'appelle MAM.
MAM, exactement. Et c'est à Paris, dans le 17e.
Merci Olivier. Eh bien, mon goût de la semaine, moi, ce sont des pâtes aux noix. Est-ce que vous connaissez ça? C'est une recette traditionnelle des Alpes. On mange ça du côté de Grenoble. J'ai fait ça avec Camille Combal pour une de mes émissions à la télévision. C'est une recette qu'on déguste à Noël, du côté des Alpes. C'est tout simple, c'est des noix écrasées avec du beurre, beaucoup de beurre, et on fait tomber
c'est
les pâtes.
Ça.
Ah, c'est pas riche du tout, non, mais qu'est-ce que c'est bon, avec un petit peu de parmesan qui vient de l'autre côté des Alpes pour terminer.
D'accord.
Allez, c'est l'heure de faire le marché. Noël approche, alors plutôt que d'offrir des cadeaux qui restent dans les placards, offrons de bons produits à cuisiner ou à déguster, comme ça en plus on soutient nos producteurs français. Alors pour ça on vous emmène à l'épicerie de Loïc, dans le 11e arrondissement. Loïc Ballet, vous le connaissez, vous savez, c'est le chroniqueur avec son triporteur dans Télématin sur France 2. Et bien force de parcourir les régions, il en a rapporté le meilleur à la capitale. Entre les charcuteries et les condiments, vous avez le choix.
Je cherche exactement du poivre, mais du poivre moulu. C'est une commande qu'on m'a fait pour Noël.
Aujourd'hui je leur prends un rôti de chapon, parce que c'est un truc original que j'ai jamais vu et qu'ils ont par un producteur. C'est quelque chose qu'ils ont rentré cette semaine et que je vais tester ce soir.
Je vous fais goûter un petit lingot de foie gras de canard aux épices douces de Noël. On fait une recette un peu particulière. Je fais un foie gras de canard mi-cuit à la bière d'Alsace. Très différent.
C'est bon. Hein.
Ouais.
Tous les samedis, on essaye de faire venir des producteurs, encore plus pour le mois de décembre, puisqu'on est ouvert aussi le dimanche. Et le samedi, le dimanche, il y a des producteurs.
Ça va être un florilège entre de la rosette, du jambon blanc et du jambon sec.
La salaison, vous êtes en Ardèche, la salaison Marion. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Là, c'est la ferme de Gaillères, donc là, pour le coup, vous êtes dans l'Allier.
Je prends un petit bout de morbier, machin, là, c'est vachement bon, ça va.
Bien sûr.
Je viens chercher des cadeaux pour mes amis, pour ma fille. J'ai un ami qui a un bec sucré. Alors, je lui offre à la fois des miels, qui est le miel de ronce. C'est à la fois fleuri et fruité. C'est assez puissant, mais pas violent, parce que moi j'offre que des cadeaux qui se mangent.
Très belle définition, vous avez raison madame, j'adore le miel de ronce aussi, et ben voilà, faisons des cadeaux utiles et ceux-ci ne
resteront... cadeaux qui se mangent.
Voilà, ils ne resteront pas dans les placards, ceux-là.
Mais c'est les meilleurs.
C'était l'épicerie de Loïc dans le 11e arrondissement de Paris et partout en France, on a de plus en plus comme ça d'épiceries qui sourcent, comme on dit aujourd'hui, les produits locaux et qui viennent de toute la France. On a de beaux artisans et c'est vraiment le moment plus que jamais de les soutenir.
Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que le cadeau qui se mange, on est certain que ça va faire plaisir. Et moi aussi, je fais des cadeaux qui se mangent.
Qu'est-ce que
ou
vous
qui
offrez...
se boivent d'ailleurs.
Alors qu'est-ce que vous offririez?
Ben, soit du vin. Mais alors moi, cette année, je vais offrir, figurez-vous, à quelques amis ou à la famille proche, je vais offrir des truffes. Parce que d'abord, c'est un produit, c'est vrai, d'exception, qu'on ne s'achète pas forcément soi-même, ça vaut un peu d'argent. Mais surtout, cette année, elle n'est pas chère. Elle est à des prix historiquement bas.
Ben oui, puisque les restaurateurs n'en profitent pas.
Ben oui, alors le malheur des trufficulteurs fait le bonheur des consommateurs comme nous. Et donc, je vais acheter quelques petites truffes que je vais mettre dans un petit bocal avec du riz. Tac. Et puis,
très belle initiative. Et on parlera la semaine prochaine de tous les producteurs français qu'on peut soutenir justement pour nos courses de Noël. Et vous, Charlotte, qu'est-ce que vous offririez comme bon produit à déguster pour Noël?
Alors moi j'aurais envie de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'aider les producteurs qui souffrent quand même pas mal en ce moment et de faire plaisir avec des produits vraiment exceptionnels qui d'habitude ne sont réservés qu'aux chefs. Donc il y a des paniers de producteurs ou d'éleveurs d'exception qui sont d'habitude livrés aux restaurateurs et qui peuvent être disponibles pour les particuliers. Je pense aux agrumes Bachès qui sont exceptionnels, aux éleveurs du perche de viande qui s'appelle À la Vache, aux Côté Fiche, des pêcheurs raisonnés du Gros du Roi qui livrent dans toute la France, ou la fromagerie Janin dans le Jura. Ils ont des produits exceptionnels en légumes, viande, poisson, tout ce que vous voulez. Ça fait extrêmement plaisir et ça les soutient.
Et ben voilà, on soutient nos producteurs et on fait des courses utiles, comme disaient nos grands-mères. Voilà, le bon sens. Autre idée pour les fêtes, offrir de vrais fruits confits. Eh bien, direction le Luberon pour assister à la fabrication de ces petits bijoux. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Alors, vous avez peut-être commencé votre sapin de Noël. Et si pour changer des boules, on accrochait des fruits confits, tiens?
Ça décore. Hein,
brillants, colorés, je trouve qu'ils peuvent donner de l'allure au roi des forêts. Alors, loin des fruits confits industriels, on vous emmène faire un tour dans le Luberon pour redécouvrir le goût des vrais fruits confits. Et c'est vrai, vous, Olivier, qui êtes le monsieur histoire de la gastronomie chez Stéphane Bern et Mathieu Noël tous les jours à 16h sur Europe, on peut dire que c'est indissociable de la Provence, le travail du fruit confit. Hein.
Et oui, de la Provence et de la ville d'Apt, même si on connaît la confiserie depuis les Romains. C'est vrai que la ville d'Apt a connu beaucoup de confiseurs qui avaient séduit d'ailleurs les papes, et notamment le pape Clément VI, qui avait nommé un aptésien au poste, tenez-vous quand même, d'écuyer en confiserie. Alors
c'est
ça,
beau,
claque
ça
quand
claque.
Même. Mais 1857 est une date très importante parce que l'impératrice Eugénie ouvre le canal de Carpentras. L'irrigation permet le développement d'énormément d'arbres fruitiers. Et c'est là que va naître l'idée vraiment du fruit confit, c'est-à-dire la technique qui consiste à remplacer l'eau du fruit par du sucre, et donc ce qui lui permet d'être conservé.
Qu'est-ce que vous racontez bien?
Ah,
à l'après Alain Decaux, Olivier Pouls raconte. Alors, loin des cubes colorés industriels, Frédéric Michel, justement, notre correspondant dans la région, a trempé son micro dans le sirop, comme vous dites, Olivier, avec Denis et Sylvie Rastouille de la confiserie Saint-Denis, au Beaumette, dans le Pays d'Apt. Tendez l'oreille, ça glougloute.
Alors là, je teste la concentration du sucre en soufflant dans une écumoire. Et lorsque les bulles sont assez importantes, ça veut dire que le sirop est assez concentré pour le glaçage. Voilà, là on est bon. Donc en fait, je les enrobe d'une fine couche de sucre de glaçage pour éviter que les fruits ne collent aux doigts. Le confisage, c'est 15 bains en moyenne. À chaque bouillon, on évapore de l'eau et on compense par un apport de sucre. Le but, c'est d'arriver à 76% de matière sucrante. Donc on étale les 15 bouillons sur un mois. Et là, le glaçage, c'est le 16e, c'est la finition.
Quelle est la différence entre ce que vous faites, vous, et les fruits confits qu'on trouve en supermarché?
Ce que vous trouvez, ça va être de la pastèque, du navet, de la rave qui est confite, colorée et coupée en petits cubes. Nous, c'est vraiment du vrai fruit qui reste minimum 5-6 mois dans son sirop, dans les bassines, avant qu'on puisse les vendre. C'est pas dans des gros bacs, c'est un confisage vraiment artisanal.
Les fruits en général viennent à 80% du Vaucluse. La poire vient des Alpes, la pêche vient du Gard, les agrumes d'Italie. Tous les autres fruits sauf la cerise se font par des petits artisans. Donc nous sommes trois sur la région d'Apt à faire le fruit noble.
Quel beau métier. Merci Denis et Sylvie Rastouille au micro de Frédéric Michel. C'est magnifique. On les a avec nous, ces fruits confits. Et alors là, ça n'a rien à voir avec ceux du cake de papy machin chouette. Hein.
Bon, c'est vrai qu'on sent que c'est des vrais fruits, quoi. Oui. Ça en a la forme.
C'est un concentré de saveur. Ah,
c'est incroyable.
Et puis on sent le savoir-faire, l'art de l'artisanat, là, quand même, français, parce que c'est, et on sent ce glaçage, ça craque un peu. C'est pas uniquement mou sous la dent. Hein.
À la surface. Et puis, on pourrait se dire, oh là là, parce qu'il y a beaucoup de bains de sucre, on l'a entendu, ça pourrait être trop sucré. Bah, c'est pas le cas, je trouve, moi.
Non, la
figue, elle est très bien équilibrée.
Parce qu'il y a toujours l'acidité du fruit qui vient contrebalancer ce côté sucré. Moi, là, j'ai une petite prune qui est tout à fait délicieuse aussi.
Ah, alors, c'est vrai que c'est plus cher, évidemment, que les fruits confits industriels, mais ça n'a tellement rien à voir. Hein. On l'a entendu dans le son avec Frédéric Michel. On les trouve aux alentours de 46 euros le kilo. Vous comptez 13 euros le sachet de 250 grammes. Bah, encore une fois, ça, c'est une belle idée de cadeau, par exemple, pour les fêtes. Mmh. Merci, Denis et Sylvie Rastouille, à Apt, dans le Luberon.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de répondre à vos questions et pour cela, nous accueillons Fanny Rascle. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors,
on pose les questions, comme toujours, sur la page Facebook des Bons Vivants.
Exactement, ou au 39-21, on peut dire qu'on est là tous les jours, 24 heures sur 24,
c'est
si
ça.
Vous avez besoin d'un conseil au moment de faire vos courses ou d'une astuce en cuisine. Et on commence aujourd'hui avec ce message de saison reçu sur le répondeur.
Salut les bons vivants, moi c'est Manon, je viens d'un petit village qui s'appelle Jancet à côté de Poitiers. Aujourd'hui j'ai une question au sujet des fêtes de Noël, j'aimerais acheter du foie gras. Et c'est vrai que je suis un peu perdue en magasin, il y a souvent écrit soit en morceaux, soit entier. Et du coup j'aimerais bien connaître la différence et savoir lequel vous me conseillez. Merci beaucoup.
C'est une très bonne question et de saison comme vous dites Fanny, effectivement. Le foie gras entier c'est simple, c'est un foie gras qui est mi-cuit par exemple et qui est mis en conserve. Et il vient du même lobe de l'animal, qu'il soit de canard ou qu'il soit d'oie, c'est le même lobe, c'est la même partie. Tandis qu'en morceaux c'est autre chose Olivier.
Bah oui, c'est plusieurs lobes qui vont reconstituer on va dire un foie. Alors, en général c'est les chutes, mais vous pouvez dans une même boîte avoir des morceaux qui proviennent de canards différents. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est quand même moins rassé et moins bon que le
goût est moins subtil. C'est mais pas mauvais, voilà, faut dire la vérité, c'est pas mauvais, c'est un goût moins subtil. Ce qui est pas terrible,
mais il est moins cher,
est-ce que je vous déconseille, c'est la mousse de foie gras qui est faite avec là, des chutes de foie gras et on rajoute effectivement la parfois même...
Et la texture
même
est totalement différente.
Et ça n'a rien à voir.
Oui,
donc
plus
voilà.
C'est transformé en général... Plus il faut éviter. Peut-être.
Mais faites votre foie gras mi-cuit vous-même, c'est pas compliqué.
C'est
hein.
tellement facile.
Oui, on s'imagine tout un monde. Mais
avec
c'est
la recette de notre ami corps de bord du micro-ondes,
vous la
c'est inratable.
Vous la trouverez sur europe1.fr. Une autre question peut-être, Fanny.
Posez cette fois sur le groupe Facebook des Bons Vivants. C'est Juliette qui vous demande quelle est la différence entre la meringue française, suisse et italienne. Alors du coup, si on commence par exemple sur la tarte au citron, celle qu'on met dessus, là, c'est de la meringue italienne, hein, c'est ça ?
Bravo, exactement, c'est ça Fanny. La meringue italienne, ce sont des blancs d'œufs avec un sirop qui a été chauffé aux alentours, un sirop de sucre hein, évidemment, aux alentours de 110 et 120 degrés. Ça, c'est la meringue italienne qui est celle, comme vous dites, de la tarte au citron qu'on peut mettre pour faire meringuer quelle que soit la tarte.
Et la meringue française, du coup, c'est laquelle ?
Alors la meringue française, c'est la plus classique, la plus connue et surtout, ça m'arrange, la plus simple à réaliser,
ça m'arrange aussi.
Elle nécessite seulement des blancs d'œufs et du sucre. Alors, si on la loupe, c'est vraiment qu'on l'a voulu. Elle est donc croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Donc, idéale pour, par exemple, faire des pavlova ou des vacherins.
Et la Suisse ?
Bah, la Suisse, c'est celle qui prend un peu plus de temps.
C'est
hein.
ça.
Il faut le double de poids de sucre par rapport aux blancs d'œufs. Elle se prépare en mélangeant les blancs d'œufs et ensuite en les cuisant au bain-marie, température 55-60 degrés, c'est précis, on laisse refroidir. Et puis surtout, après, on laisse sécher dans un four à 100 degrés. En général, vous savez, c'est celles qu'on trouve chez les boulangers, là, les grosses meringues, elles sont plus sèches.
On les casse
pour faire des décors.
Ou alors pour faire des Mont Blanc Express, par exemple. Crème de marron, fromage blanc et puis de la meringue, tout ça déstructuré. Ça vous fait une sorte de Mont Blanc Express. Oh. On continue à poser des questions, hein, Fanny. Hein.
Exactement. Sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes par minute sur Facebook, dans le groupe des Bons Vivants, vous êtes déjà plus de 20 000 à discuter, à échanger, à partager autour de vous, Laurent Mariotte.
Continuez, eh bien, nous sommes là avec vous pour vous aider et vous donner de belles idées en cuisine autour de nos produits de saison. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec vous Fanny et votre journal de la cuisine et puis on va rendre hommage à un grand chef qui nous a quittés mercredi, c'était Marc Menaud, un grand chef et une belle personnalité. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Du grand aïoli aux 13 desserts, le chemin de table nous emmène au pays des Santons ce samedi. Ce sera notre dossier du jour dans un instant. Mais juste avant, voici les titres de votre journal de la cuisine, Fanny Rascle. La disparition de Marc Menaud, figure de la gastronomie française. La menace de la grippe aviaire et du poulet artificiel servi en Asie. Voilà les titres. Et on commence ce journal évidemment par l'émotion suite au décès de Marc Menaud, Fanny.
Oui, la gastronomie française a perdu cette semaine l'une de ses figures. Un chef indomptable et profondément généreux, autodidacte en cuisine et meilleur ouvrier de France. Marc Menaud avait réussi à transformer le petit café de sa mère dans son village de Saint-Père-sous-Vézelay en une étape incontournable en Bourgogne évidemment. Avec des hauts et des bas, des étoiles perdues et des étoiles retrouvées, Marc Menaud avait 77 ans. Vous allez lui rendre hommage dans quelques minutes
avec
évidemment.
Olivier. Dans un instant, et c'est vrai que de nombreux chefs lui ont rendu déjà hommage, Alain Passard, Éric Briffard, Gilles Épier sur les réseaux sociaux. L'inquiétude des éleveurs de canards français, Fanny.
Avec la menace de la grippe aviaire qui se précise, cette semaine, les autorités ont confirmé qu'un premier élevage avait été infecté dans les Landes, abattage décidé pour 6000 canards. Jusqu'à présent, il n'y avait eu que des alertes dans des animaleries beaucoup plus petites, mais la maladie progresse, transmise par des oiseaux migrateurs, d'où cette mesure de confinement. Les éleveurs doivent désormais laisser leur volaille à l'intérieur ou installer des filets de protection. Est-ce que ce sera suffisant ? La filière foie gras, qui a beaucoup souffert ces dernières années, est particulièrement exposée.
Petite précision, la grippe aviaire qu'on appelle la grippe du poulet n'est pas transmissible à l'homme, donc ça, faut le savoir. Et on termine par un volatile, alors là, d'un tout autre genre.
Oui, direction Singapour, où les restaurants ont désormais le droit de servir du poulet 100% artificiel. C'est une première dans le monde. Pour fabriquer ce poulet, il faut prendre des cellules de muscles et les faire se multiplier en laboratoire. Cette méthode est censée réconcilier les amoureux des animaux avec l'aile ou la cuisse. Elle est présentée aussi comme moins polluante, mais on a du mal à copier les os et la peau. Ça ressemble donc essentiellement à des nuggets pour l'instant. Les autorités locales assurent qu'il n'y a pas de risque pour la santé. On attend de voir la réaction des consommateurs, comme
j'ai
la vôtre.
J'ai vu les images, ça tient pas bien la cuisson.
Je vous les laisse.
Et ça rend beaucoup de flotte, l'histoire. Merci Fanny Rasque.
Avec plaisir.
Et à la semaine prochaine.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Mercredi, nous avons appris la disparition, je le disais, de Marc Menaud. On vient d'en parler avec Fanny dans le journal. Un grand chef cuisinier installé en Bourgogne, créatif, généreux. C'était un passionné comme on aime, un vrai personnage, Olivier.
Oui, et puis de ces chefs que les moins de 20 ans, malheureusement, n'ont pas bien connus. C'est l'époque glorieuse de la cuisine bourguignonne dans les années 70 et 80, où on allait de la Côte-Saint-Jacques, de chez Lorrain, chez Marc Menaud, en s'arrêtant chez Bernard Loiseau et en descendant chez la Meuloise. Tous des établissements 3 étoiles, tenu par des chefs hyper emblématiques, créatifs, qui ont vraiment inscrit toute une grande page de la cuisine contemporaine.
Et flamboyant, c'était le chef de l'Espérance à Saint-Père dans Lyon, donc Marc Menaud, et un chef autodidacte.
Il avait eu quelques maîtres d'apprentissage, mais il n'avait pas fait d'école. Il était très créatif dans la cuisine. On retiendra évidemment ses fameux cromesquis de foie gras, ou ses huîtres en gelée d'eau de mer, exactement, on allait pour là. Le monde entier venait à Vézelay. Gainsbourg y a fini sa vie, par exemple.
Il a passé ses dernières semaine là-bas.
Exactement.
Gainsbourg.
Et puis, petit clin d'œil aussi au vignoble, puisque Marc Menaud était un amoureux du vin et il a contribué très largement à la renaissance d'un vignoble qui aujourd'hui commence à reprospérer. C'est le vignoble de Vézelay qui avait pratiquement disparu. Il a planté les premières vignes, je crois, en 1986 là-bas. Il avait une petite cuvée de vin tout à fait délicieux qu'il servait notamment dans son restaurant. Malheureusement pour lui, les conditions économiques ont été très très compliquées et l'aventure s'est mal finie. Mais c'était un homme extrêmement...
L'espérance existe toujours, mais elle est à tous les vents. Ça devait être racheté par un grand groupe pour en faire un établissement hôtel-restaurant.
Et pour l'instant, c'est vide.
Il ne se passe rien.
Il n'y a rien. Et dans le contexte actuel, je ne sais pas quand ce lieu renaîtra.
Mais son fils, Pierre Menaud, a repris le flambeau et lui est un bon cuisinier. En région parisienne.
Et il perpétue d'ailleurs les cromesquis de son père qui sont des petites bouchées absolument irrésistibles.
Donc on pense à lui et à sa maman Françoise. Marc Menaud, à qui on voulait rendre hommage.
Un très
grand chef et flamboyant et qui aura laissé une empreinte effectivement dans la cuisine française. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Il y aura du bon gras grâce à vous, Charlotte Langrand. Il y aura des accords mévins saisonniers grâce à vous, Olivier. Et encore plein de surprises, on ne va pas tout vous dire.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
En cette période agitée, ça fait du bien de se retrouver autour des valeurs essentielles et en cuisine, la tradition rassure. Alors régulièrement, le samedi, nous allons passer à la casserole nos traditions régionales et on va commencer avec la cuisine provençale et son gros souper de Noël. Une belle répétition pour le menu du réveillon. Ça vous parle le gros souper, Charlotte, Olivier ?
Tu parles, gros souper, ça me met même en appétit, moi.
Bien sûr, ça donne tout à fait envie de s'attabler.
Non mais c'est vrai qu'en Provence, la tradition et la religion sont liées quand il s'agit du repas de Noël. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le sujet des trois messes basses d'Alphonse Daudet dans Les Lettres de Montboulin. Ça vous parle, Charlotte ?
J'adore cette histoire. Mmh. C'est l'histoire du curé pressé de terminer sa messe pour aller réveillonner. Quoi.
C'est ça, exactement.
Donc en fait, ça se passe au XVIIIe siècle dans un château provençal imaginaire. Ouais. Et le curé du château, Dom Balaguer, est tenté par le diable, en l'occurrence le jeune sacristain, qui lui explique le menu d'après-messe
les
gargantuesque.
Les poulards, voilà. Les cailles.
Et Dom Balaguer de s'empresser d'expédier ses trois messes de Noël pour passer plus vite à table.
Mais ça se termine mal pour le curé, hein, Olivier.
Oui, malheureusement pour lui, parce qu'évidemment, Dieu n'apprécie pas vraiment la rapidité de la messe. Et donc, il lui fait un petit marché. Ok, tu pourras aller au paradis, mais avant, il va falloir réciter durant un siècle quand même, en compagnie de ses coupables fidèles, 300 messes basses. Je vous laisse un peu imaginer le truc. Ouais. Alors, c'est cher payé pour quelques faisans et quelques oies rôties.
Et c'est vrai, alors que dans les trois messes basses, Dom Balaguer, il rêve de faisans, je le disais, de cailles. Et ça, c'est pas vraiment au menu officiel du gros souper. Alors, pour connaître...
Non, parce que c'est un repas maigre, en
exactement,
fait.
Exactement.
Hein.
Pour connaître la composition, on va demander à un expert de la cuisine provençale. C'est le chef cuisinier Michel Messonnier qui est avec nous. Bonjour, Michel.
Bonjour, Laurent.
Longtemps chef de l'Ermitage, hein, Messonnier, deux étoiles aux Angles dans le Grand Avignon. Vous connaissez bien la cuisine provençale. Alors, le gros souper, comme on le racontait d'Alphonse Daudet, là, c'est un petit peu de la science-fiction. C'est pas ça, le vrai gros souper, racontez-nous.
Pas du tout. C'est un repas maigre, donc il n'y a pas de volaille, il n'y a pas de gibier. Et c'est l'aigue boulide, c'est un bouillon avec de l'ail et un peu de thym et de laurier.
Oh, vous le dites bien, ça s'écrit aigue boulido. Mais comment vous le redites, redites, parce qu'on en est en Provence, là.
L'aigue boulide.
Alors, ça sert à quoi, ça, raconter?
Ben, à laver, à préparer, quand on est un peu chargé, comme ça. Et comme c'est un gros souper, mais qui est maigre, donc il n'y a pas de viande, on boit ce bouillon qui va nous préparer à manger. Derrière, donc on mange de la morue, de la lauze, des escargots, mais le tout, c'est maigre, je veux dire, c'est tout des plats maigres. La lauze, c'est avec de l'oseille, le gratin de carde, la carde aussi, la carde aux anchois, c'est un plat merveilleux.
Alors la carde, arrêtons-nous sur la carde, tiens, Michel Messonnier, ouais, parce qu'il y a grand débat, il y a des gens qui pensent que c'est comme la blette, comme les cardons, c'est le cardon pour vous, la carde?
C'est le cardon, mais qu'on prépare exprès, c'est des côtes très épaisses et que l'on entoure d'une couverture quand elles sont montées, pour les garder bien blanches et bien tendres. Et ça, on ne le mange qu'à la période de Noël, et on le mange ou en gratin, aux anchois ou à l'oseille, ou alors on le mange en anchoyade, avec des anchois montés à l'huile d'olive, et le cœur croquant, comme ça on le mange, la carde. Voilà.
Alors la table est mise sur trois nappes blanches, hein, c'est ça pour le gros souper, il y a un petit cérémonial quand même.
En travers. C'est-à-dire qu'on met la première normalement, la deuxième en travers et la troisième. Trois nappes, ce qui représente la Trinité normalement. Et dessus, il y a un chandelier à trois branches aussi. Et on met le pain sur la table, la miche coupée en trois. Le tout, c'est en trois sur la table. Voilà.
Alors, on a préparé ce dossier, Michel, avec deux beaux livres, La cuisinière provençale, que vous connaissez, hein, qui est la Bible,
oui,
de la cuisine,
oui,
provençale.
C'est la Bible.
Et puis le joli livre aussi de Catherine Roig, qui s'appelle Provence, chez Hachette Cuisine, qui est un très beau livre où on retrouve le grand aïoli, par exemple. Le grand aïoli fait partie du repas de Noël.
Vous avez, parce que justement, il y a la morue. Et la morue, où on la mange, hein, dans le côté niçois plus bas, il la mange en raïto, c'est-à-dire avec de la tomate et avec des oignons et des olives noires. Et tandis que là, c'est avec la carotte, les œufs durs, les pommes de terre, les escargots, on mange la morue en aïoli, avec la pommade d'amour, l'aïoli, c'est la pommade d'amour.
Ah oui, c'est bien dit. C'est bien, ben alors tiens, on va en reprendre deux fois, Olivier.
Est-ce que, alors, je pense qu'il y a plusieurs écoles, mais est-ce que le gros souper commence avant la messe et ensuite on va à la messe et on finit par les desserts, ou comment ça s'organise?
Alors, moi je vais vous dire vraiment chez nous comment ça se fait. L'aigue boulide, on fait le repas, on va à la messe, et quand on revient, on boit l'aigue boulide et on mange l'aïoli et les 13 desserts en rentrant de la messe. L'aigue boulide, on la mange après, donc, je veux dire. Alors que normalement, un gros souper, il la mange avant. Mais nous, après la messe, quand on rentre, pour se nettoyer l'estomac, puis on a fait la communion, alors,
ben oui,
donc on est un peu chargé.
C'est le vin de messe.
C'est le vin de messe.
C'est pas simplement pour se nettoyer l'estomac, d'ailleurs, parce que l'aigue boulide, comme vous dites, je sais pas si je le dis bien,
si, vous le dites
mais
bien.
En tout cas, il séduit aussi les jeunes chefs, parce qu'il y a Fanny Ray, qui est une jeune chef de la région aussi,
je connais,
qui adore.
Elle,
voilà,
travaille à Beaumanière.
Voilà, qui adore en faire. Et dans le beau livre de Catherine Roig, il y a Nadia Samut qui donne sa recette de l'ague au boulide aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut aussi se manger en dehors du réveillon.
Oui, il y en a qui mettent des pâtes, rien ne devrait vous le dire. Il y en a qui trichent un peu dans cette taïgo, ils mettent des petites pâtes et il y en a même qui râpent de la truffe. Alors, plus le gros souper, on déborde.
Oui. C'est ça, voilà, oui. Vous avez raison.
C'est moins maigre.
C'est maigre au départ. Eh bien, merci Michel Messonnier d'avoir rafraîchi notre mémoire et de nous avoir remis en place ce beau gros souper de Noël. Et on vous le souhaite bon en famille, évidemment. Hein.
Merci et je vous souhaite un bon Noël à tous.
Merci
bon
Michel.
Merci vous aussi.
Et à bientôt. Et tiens, on continue de dérouler le menu de Noël provençal juste après ça. Et on revient avec du sucré parce qu'on n'a pas fini. Il y a 13 desserts quand même.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Nous fêtons Noël en Provence ce midi, alors nous préparons le gros souper, le dîner du réveillon provençal. On était avec Michel Messonnier pour la partie maigre et salée, et nous revoilà avec 13 desserts, c'est tout un programme.
Olivier, vous avez encore un peu de place.
Il y a de la place encore, oui. On va séquencer, comme disait Michel Messonnier, effectivement, avec la messe qui permet petit peu de faire digérer tout ça. C'est symbolique, ces 13 desserts.
Mais on parlait tout à l'heure du rapport avec la religion. Évidemment, 13 desserts, ce chiffre symbole, c'est la scène, Jésus et les 12 apôtres. En fait, c'était une tradition qui était codifiée réellement au 19e siècle par le Philibrige, qui est une association de poètes fondée par le grand Frédéric Mistral. Et c'est là qu'on a établi véritablement la codification de ces 13 desserts qui, en fait, sont plus que 13, si on veut.
Oui, c'est vrai. Alors, on va faire la liste. Tiens, Charlotte, vous avez enquêté sur le sujet. On s'est appuyé encore là aussi sur la cuisinière provençale, qui est cette bible de la cuisine provençale, qui est un joli livre jaune avec une belle arlésienne en couverture. Alors, les 13 desserts. Mais c'est simple, en fait.
C'est Madame Tacussel, la femme de l'éditeur du Reboul, qui nous a donné la liste exacte de ces 13 desserts. Alors, il y a beaucoup de fruits secs, comme vous le disiez. Raisin, amandes, noisettes, des figues séchées, des dattes, des noix, du nougat blanc et du nougat noir, des fruits, oranges, pommes, raisins. Et puis, vous avez des choses un petit peu plus exceptionnelles et plus régionales, comme par exemple la pompe à huile d'olive.
Ah, la pompe à huile, ça c'est un grand classique de la cuisine provençale. Ça vous parle, Olivier ?
Ah, la pompe à huile, qu'il ne faut pas confondre avec le gibassier d'ailleurs. Ça peut se ressembler un petit peu. Alors, la pompe à huile, c'est à base de farine, d'huile d'olive, de sucre, de fleurs d'oranger. Et alors, c'est un gâteau qui est quand même, comme son nom l'indique, un peu gras, son nom pompe à huile vient un peu du fait qu'il y en a
riche.
Dedans, comme on dit. Exactement. Mais dans certains coins, on met la pompe à huile et d'autres, le gibassier qui, elle, est une fougasse sucrée dont le corps gras est de l'huile d'olive aussi, mais préparée un petit peu différemment. Il y a de l'anis, de l'écorce d'orange, de la fleur d'oranger, c'est saupoudré de sucre.
Alors, on parlait des 13 desserts, il y a le calisson d'Aix aussi qui peut faire partie des 13 desserts. C'est vrai que cette liste des 13 desserts change en fonction des régions en Provence. Je vous parlais du beau livre de Catherine Roig qui est paru chez Hachette Cuisine. À l'intérieur, elle fait par exemple un sublime biscuit calisson aux amandes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Provence, le Luberon, c'est une terre d'amandes au départ. On est parti les cultiver beaucoup en Californie et on réintroduit aujourd'hui des amandiers dans la région.
Et qui font des amandes remarquables.
Exactement. Donc voilà, je vous donne cette idée de cadeau pour les fêtes aussi.
Très
le
livre
Provence de Catherine Roig, qui est vraiment un très beau livre. Ça coûte 40 euros.
Qu'on ouvre comme on entre dans un olivier. Il est très bien. Il y a des belles photos. C'est incarné par des paysans, par des gens, des artisans qui entretiennent tous ces beaux produits de la région. Et il y a des très belles recettes aussi.
C'est vrai que la Provence, comme le dit Catherine Roig, est un garde-manger à ciel ouvert. Et moi, quand je lis ce livre de la cuisinière provençale, qui est un livre ancien qui date de 1897, avec des paupiètes de sol aux crevettes, avec du chevreuil, avec du gibier, mais il y avait des tartes et des tartelettes au fromage, des omelettes aux tomates, des omelettes aux courgettes, on se rend compte d'une chose.
C'est contemporain.
C'est très contemporain. Et on se rend compte d'une chose, c'est que la cuisine provençale, c'est un petit peu notre cuisine italienne à nous.
Ouais.
Parce qu'il y a cette simplicité du produit et la chaleur, effectivement, de la région.
Et qui tourne autour du produit avec des interprétations de recettes en fonction des familles, des régions, comme en Italie, en réalité. C'est moins codifié que la grande cuisine parisienne, par exemple, mais c'est vraiment l'essence du produit.
Alors, on va récapituler. Si on veut refaire ce gros souper, on vous remettra toutes les références, évidemment, sur europe1.fr. Il y a l'aigo boulido, bien entendu.
L'aigo boulido.
Il y a de la morue. Il y a le grand aioli.
Oui.
Mais on ne mange pas de viande, on ne mange pas de poularde, on fait maigre.
Non, mais
comme
j'ai
entendu
qu'on pouvait manger des poissons quand même.
On peut manger des poissons, absolument. Oui, et puis, c'est vrai que rien que le grand aïoli, c'est vraiment un plat que je vous invite à faire pour fêter Noël. Parce que entre les œufs durs, entre la morue, entre
les
bulots, les escargots de la mer, on peut mettre des vrais escargots de terre aussi.
Historiquement, il y en avait.
Exactement. Donc, c'est un beau plat de partage.
Ouais, ouais.
Et puis, cette ail, évidemment, aller saucer chacun de ces ingrédients dans cette sauce à l'ail, c'est extraordinaire.
Et les 13 desserts,
on termine par les 13 desserts, donc des amandes, des noix, des
fruits,
dattes.
Des fruits confits d'Apte.
Oui, et puis des vrais fruits aussi, qu'on
et
peut mettre à table.
Et des vrais fruits, des oranges, des pommes, des raisins blancs, du melon vert.
Du nougat.
Une pampa huile.
Et ben voilà, c'était le Noël à la sauce provençale. Et régulièrement, comme ça, le samedi, on s'amusera à passer à la casserole les traditions d'une région. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec notre invité et on va cuisiner la Saint-Jacques. Et puis Olivier, vous nous donnerez des accords mets vins saisonniers.
Absolument.
A tout de suite les amis, et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. En musique comme en cuisine, les classiques font souvent du bien. Eh bien la preuve, tiens, avec Francis Cabrel et ses Murs de poussière. On revient juste après.
Il rêvait d'une ville étrangère, une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Il rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il voulait trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre, il a même demandé à Dieu. Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux. Il a croisé les rois de naguère, tout drapé de diamants et de feu. Mais dans les châteaux des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux. Il a dit je retourne en arrière, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il a dit je retourne en arrière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux sur son lopin de terre et sur son vieil arbre tordu au milieu. Au reflet de la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux.
Francis Cabrel sur Europe 1 et ses Murs de poussière. Il est bientôt midi, et bien c'est l'heure d'accueillir notre invité. Né à Paris, son enfance du côté de Compiègne lui a donné le goût d'une cuisine rurale sans fausses notes. C'est en allant au théâtre avec sa maman qu'elle en pince pour la comédie. Sous ses airs gouailleuses, elle est aussi troublante dans des rôles plus sombres. C'est Catherine Jacob, notre invitée. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir à cette table.
Ravie d'être avec vous.
Parce qu'on a des dossiers sur vous et on sait que vous êtes une très bonne vivante et une fine cuisinière.
Disons qu'à une époque, j'avais un appartement plus grand, alors je me lançais dans des petites fêtes une fois par an. Et là, je me mettais... Enfin, ça coûtait une semaine de boulot. Et je faisais quand même des choses froides, et pour que l'on me dise mais comment faites-vous ça. Et l'idée étant que j'arrivais, je sortais de ma petite salle de bain impeccable, alors que j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher parce que j'étais crevée, quoi. À chaque fois que je faisais une fête, je n'en pouvais plus, quoi. J'avais trop préparé la chose, mais en même temps c'était rigolo. Mais je ne voulais pas être en cuisine avec du gras sur le museau, en train de transpirer et tout. Il fallait que ce soit léger, aérien, mais c'était un taf de chien.
C'est la Catherine Jacob Joyeuse qu'on entend là, mais ce lundi à 21h05 sur France 2, le 14 décembre, plus. C'est la Catherine Jacob sombre qu'on va retrouver.
Dans personne n'arrange.
C'est un personnage, j'entends bien. Sophie Delalande. Hein, on va en parler tout à l'heure de ce thriller avec votre fille qui disparaît à l'âge de 3 ans et 20 ans plus tard, vous pensez la retrouver.
Une petite fixette.
Oui, c'est une belle petite fixette. Mais vous êtes un peu flippante hein, dans
j'espère.
Ce rôle. Hein. Oui, c'est, je vous le dis.
C'est un fantasme absolu d'essayer de faire pleurer dans mes souvenirs, mais déjà les faire flipper, si déjà c'est ça, c'est bien.
Ben, oui, vous y arrivez bien. Quel est votre goût de la semaine, Catherine Jacob?
Moi, je vais au marché une fois par semaine, boulevard Edgar Quinet. Où je vous croise.
Exactement.
Charlotte Langrand, voisine de marché, c'est chic.
Ben évidemment, il y a tous les produits de saison, mais justement, une petite envie un peu dérivée, c'est de faire de la petite mousseline de patate douce.
Oh, j'adore la patate douce. Comment vous la faites, votre mousseline de patate douce?
Très facile, vous la cuisinez dans un petit bouillon, vous l'épluchez après. Et après, il faut avoir le matos qui va bien.
Le bon mixeur.
Oui, le bon mixeur, si vous voyez ce que je veux dire.
Qui va très vite avec une hélice.
Et une petite hélice avec des petits trous.
C'est ça.
Et,
oui.
Et ça va très très bien.
Vous mettez
de
la matière grasse ou pas?
On peut mettre un peu de beurre.
Un peu de beurre, voilà.
Pas trop. Moi, j'aime mieux la crème fraîche à la fin. C'est-à-dire que c'est moins méchant que de l'huile d'olive que j'adore, mais ce n'est pas la peine de mélanger tous les goûts. Ou du beurre, mais du beurre un peu que la silicose, machin. Et donc, avec parfois une petite poudre de perlimpinpin, oserais-je dire, de chez Rollinger.
Ah, on vous en a apporté. On a quelques petites surprises pour vous, parce qu'on enquêtait sur vous.
Ou simplement du piment d'Espelette, c'est pas mal.
Ça réchauffe tout de suite,
le piment. Fleur de sel, piment d'Espelette, un peu de crème fraîche.
Alors,
c'est bien.
Catherine Jacob, les températures baissent. Est-ce que vous faites partie des Français qui profitent de la saison pour cuisiner des plats réconfortants, comme la choucroute, la côte de bœuf, la poularde, des plats avec du bon gras, quoi?
Oui, mais enfin, j'attends pas l'hiver.
C'est ce que je voulais entendre.
Voilà.
Alors, Charlotte Langrand, qui est à vos côtés, qui est votre voisine de marché, donc, souhaite réhabiliter le gras ce samedi matin.
Oui, mais lequel?
Lequel?
C'est ça, tout est dans cette question-là. Parce que Laurent, évidemment, le gras... C'est la vie, comme dirait le chevalier Caradoc dans une scène devenue culte de la série Kaamelott. Et aujourd'hui, nous pouvons, comme lui, afficher quand même notre amour du gras. Il est pourtant, ces dernières années, était devenu un peu l'ennemi public numéro un, coupable d'engendrer l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cholestérol.
Oui, mais l'heure de la réconciliation est venue, moi je dis.
Exactement, il est temps de se réconcilier parce que si le gras en excès est bien nocif pour la santé, il y a des études internationales qui sont venues démontrer qu'il ne devrait pas pour autant disparaître complètement de nos assiettes. Parce que consommé en quantité raisonnable, le gras, il est essentiel à notre survie. C'est un stock de secours, d'énergie de secours, une aide à l'absorption des nutriments et au bon fonctionnement du cerveau et puis de nos cellules.
Oui, et puis en plus de la santé, c'est aussi un hommage à notre héritage, à la cuisine de nos grands-mères.
Bah oui, bien sûr, le gras, c'est indissociable de notre histoire gastronomique. Il suffit d'imaginer un croissant sans beurre ou une saucisse sans gras, hein, pour le comprendre, comme le disent justement les auteurs du livre « Sel, gras, acide, chaleur » qui est paru l'année dernière aux éditions Duchesne. Le gras, comme vous disiez tout à l'heure, il est même primordial dans un plat parce que qu'il soit l'élément principal, le support de cuisson ou juste un assaisonnement, ça lie les aliments entre eux, ça les texturise, c'est aussi un exauceur de goût assez incomparable. Donc il vaut mieux le choisir de bonne qualité, c'est-à-dire de fabrication traditionnelle et pas industrielle, et avec une origine plutôt claire, hein, IGP, AOP, etc.
Catherine Jacob, on est d'accord?
Oui, enfin, je ne veux pas vous interrompre,
non, bien
mais
sûr, allez-y.
Le gras, moi je suis très anti-cuisine industrielle, donc le gras,
préparé.
Lequel hein,
voilà, c'est ça.
Alors du gras de canard un petit peu, de la crème fraîche un petit peu, du beurre un petit peu, de l'huile d'olive un petit peu, de l'huile de pépin de raisin.
Voilà.
Et basta cosy.
Voilà.
Le reste, il ne faut pas du tout mélanger des trucs un peu dégueux qui sont faits avec des amidons, des sucres et des saloperies. Donc non, non.
Mais vous allez venir régulièrement à cette table, dites donc, hein, on parle la même langue.
C'est exactement ce qu'il faut dire.
Charlotte Langrand, l'huile d'olive, pour le coup, et ça fait longtemps, hein, depuis le régime crétois, elle a des vertus pour la santé,
oui,
ça
voilà,
on le sait.
C'est ça, c'était la première à revenir en grâce, hein, si j'ose dire, pour sa délicatesse. Mais en parallèle, il y a un véritable culte du gras qui s'est développé sur les réseaux, notamment Instagram,
oui,
où on voit des comptes remplis de burgers dégoulinants ou de fromage, mmh, ou de gâteaux débordant de crème.
Il y a des pervers partout, c'est pas un problème.
C'est ça. Notamment le compte du No Diet Club, oui, le bien, oui, nommé, avec ses 72 000 abonnés, qui vient même de sortir un livre de recettes qui s'appelle Les recettes du gras.
Bon, bah,
dans un
bien
registre plus raisonnable, c'est le retour du fameux beurre, hein, qui était vraiment diabolisé dans les années 60, qui est à nouveau fréquentable depuis 2010 à peu près. Et chez nous, il y a un livre entier qui vient de lui être consacré, qui s'appelle Au beurre, aux éditions First. Il y a 60 recettes, et pas forcément grasses, hein, soupe au cresson, artichaut rôti, pommes d'amour au four, finalement...
Tout est une question.
Voilà, tout est une question.
Pour 5 personnes.
Mais comme toujours, tout n'est qu'une question d'équilibre, de toute manière.
Exactement.
Mais moi, je recommande vivement l'huile de pépins de raisin,
c'est
qui
vrai
peut rendre les choses croustillantes, contrairement à l'huile d'olive qui imbibe.
Et qui est une huile neutre et qui ne va pas donner de goût quand on veut cuire,
ça
par exemple,
une volaille. Ça ne donne pas de goût,
volaille,
donc ça peut faire, ouais, des choses macérées formidables. Mais l'huile d'olive ne va pas vous faire croustiller quelque chose.
Et l'huile de colza aussi.
Et de camille.
L'huile remarquable.
Et puis la graisse de canard pour les pommes de terre sautées, mais il faut y aller mollo. Hein,
et ouais, et puis il y a de bons oméga 3 dans la graisse de canard. C'est une...
Oui, à petite dose. Ouais.
Et ben voilà, merci Charlotte Langrand. Et on vous retrouve demain dans le journal du dimanche avec, oui, un joli papier pour soutenir nos chefs d'ailleurs.
Oui, hein, qui en ont besoin là.
Catherine, ça va être l'heure du plat du jour. Une entrée que vous pourrez tous refaire ce week-end en moins de 5 minutes. Je vous jure, ce sera juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Voici les titres d'Europe Midi, Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, le regagnant de la super cagnotte de l'Euromillion ne s'est toujours pas manifesté. On sait juste qu'il a validé sa grille en France et qu'il va donc empocher 200 millions d'euros, l'équivalent de deux Airbus A330, où ça vous parlera peut-être plus. 13 677 années payées au SMIC. Un gagnant qui sera en tout cas pris en charge par un service spécialement dédié à la Française des Jeux dès qu'il se fera connaître. Nous vous raconterons tout dans le journal de la mi-journée. Pas de pause pour l'épidémie de coronavirus. Encore 13 400 contaminations en France dans les dernières 24 heures. Un taux de reproduction, le fameux R, qui repart à la hausse. 0,83 contre 0,58. Ce qui veut dire concrètement que 100 personnes contaminent désormais 83 personnes, quand c'était seulement 58 la semaine dernière. À deux semaines des fêtes de Noël, un quart des Français se disent prêts à se faire tester avant de réveillonner en famille. Et nous serons dans un laboratoire à Tourcoing et puis invité d'Europe Midi, le professeur Patrick Bersch, grand spécialiste des virus, membre de l'Académie de médecine. Nous serons aussi avec le psychiatre Serge Effèze pour parler du moral des Français en berne alors que Noël approche. Toujours dans le journal de la mi-journée, feu vert des États-Unis pour le vaccin Pfizer-BioNTech et Donald Trump qui annonce triomphalement que les vaccinations vont commencer dans les prochaines heures alors qu'on en est à près de 300 000 morts aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde. Les 5 ans de l'accord de Paris avec un sommet virtuel de l'ONU pour relancer des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce sera cet après-midi. Et puis, vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan avec Jeanne Bergaoui et Théoman Val sur ces malades qui ne guérissent pas, ce qu'on appelle les Covid longs. Ils n'ont pas été gravement touchés, mais plusieurs mois après leur contamination, ils subissent encore les effets du coronavirus. Une fatigue persistante, des troubles de la concentration. Gros plan avec des témoignages édifiants et deux études qui viennent d'être lancées à l'Hôtel Dieu à Paris et à Tourcoing.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
12h02, je vous laisse avec Laurent Mariotte.
De Normandie.
Sur ce côté chlorophylle.
Et il est beau ce veau. Il a fière allure, il a le béret sur la tête.
Europe 1, 11h30.
Un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre. Ça, c'est délicieux aussi.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors, nous avons préparé Noël en Provence autour du grand aïoli et des 13 desserts. Nous avons déclaré il y a peu de temps notre flamme au bon gras. Si vous venez d'arriver, vous retrouverez tous ces moments en vous abonnant, évidemment, évidemment au podcast de l'émission sur Europe 1. Et nous revoilà avec notre invitée, bonne vivante et fine cuisinière, Catherine Jacob. Catherine, la cuisine, je parle de la pièce, c'est un endroit important pour vous dans la maison, hein ?
Oui, on ne peut pas vivre sans faire un petit tour de temps en temps.
Oh, c'est plus que de temps en temps.
Une petite vanne, genre, elle ne sait pas où est la cuisine, bon d'accord.
Non, ce n'est pas votre genre ça.
Non, ce n'est pas mon genre. Puis bon, moi j'ai une cuisine open, donc ouverte, donc je ne peux pas y échapper. Non, non, c'est très important parce qu'il faut que ce soit toujours très facile. Donc bien rangé.
Qu'est-ce que vous avez...
Moi j'ai un petit truc, j'ai eu une grande cuisine, j'en ai une petite maintenant, j'en ai ailleurs une plus grande à quelques années. Bon, mais... non, non, il faut que ce soit facile, simple, ergonomique.
Mais
c'est
vous êtes
plus
très
important.
Organisé. Vous aviez raconté il y a quelques années à notre camarade Jean-Luc Petit-Renaud que vous passiez les dimanches à préparer des boîtes comme des tupperwares pour faire
Maintenant, je le fais le samedi, si vous ça dépend du marché.
C'est ça, et pour
oui,
la semaine.
Je n'étais pas dans le même quartier, donc bon. Oui, alors j'ai appris que je faisais de la prose comme Monsieur Jourdain puisque je passe l'après-midi à faire du cook-bashing.
Batch cooking.
Oui. Oui, c'est assez pratique. Ce n'est pas pour ne rien faire de la semaine parce qu'il m'arrive aussi d'y retourner, mais... C'est très amusant d'avoir toute l'énergie d'un coup.
Oui, puis c'est un joli sas de décompression aussi,
oui,
la cuisine.
Hein, et je vous conseille d'écouter parfois des petites choses, des petits documentaires, que ce soit pas complètement un cerveau vide, si vous voulez, qui ne contrôle que les couteaux. On peut apprendre des choses en faisant de la création.
Qu'est-ce qu'on trouve obligatoirement dans votre frigo, Catherine Jacob, les essentiels, les basiques du frigo de Catherine ?
En fait, il faut pratiquement tout laisser au frigo, mais... Alors, moi, j'aime beaucoup les épices, les poivres, les choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être au frigo.
Ça, c'est les basiques du placard. Hein. Vous parliez des épices
d'Olivier
Rollinger.
Oui, les basiques du placard. Il faut avoir beaucoup de choses comme ça qui fassent un peu pitiller. Quoi. Donc, on ne peut pas se contenter de sel et poivre. Et quel sel et quel poivre.
C'est ça. Vous aimez les fruits exotiques, Catherine Jacob ?
Oui, bien sûr.
On vous a mis des litchis là, qui arrivent de La Réunion. Alors, ce n'est pas très éco-responsable, mais ça soutient notre filière et nos producteurs.
C'est français, surtout.
Et c'est
français.
La France.
Absolument. Oh. Non, mais je le dis parce que, voilà, quand, aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit.
On mange français.
Et je vous ai fait un petit carpaccio de Saint-Jacques.
Ah, magnifique.
Avec du fruit de la passion.
Oui, je vois.
Qui va donner cette petite touche acidulée. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai mis aussi. Oui, vous pouvez y aller, absolument. Il y a du gomasio breton aussi. On parlait d'Olivier Rollinger. Il fait ça, effectivement, avec des grains de sésame torréfiés. Hein, c'est ce qu'on appelle le cacha, par exemple. Et avec un petit peu de sel, ça remplace le gomasio qui est fait avec des graines de sésame. Et on met ça par-dessus.
Mais c'est très croustillant, justement.
Ah
ça
oui.
donne un
c'est
petit
agréable,
côté
les petits...
croquant.
Ça croque un peu.
Pépins, oui.
C'est assaisonné comment ?
Alors, c'est assaisonné avec l'huile d'olive de Patrick Bruel qu'on a reçu il y a 15 jours, le gomasio d'Olivier Rollinger, et puis j'ai pris juste, là, pour le coup, un fruit de la passion que j'ai ouvert, et avec sa petite chair acidulée. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Jacob ? Ça vous sied ?
Ça me sied, très bien. J'aime beaucoup le côté craquant du petit grain de fruit de la passion. C'est bien plus intéressant que du citron, ce qui n'a rien à foutre là-dedans.
Oui, il y a un contraste, ce côté acidulé avec le fruit de la passion qui est
Moi,
qui
le
est
citron,
vif.
J'aime bien sur la viande grillée, vous voyez
sur
pas forcément
volaille.
Sur le poisson. Là, c'est très, très plaisant.
Ça, c'est
la Saint-Jacques en elle-même n'a pas un goût phénoménal.
Elle,
c'est
elle
la structure
douce,
merveilleuse. Qui est...
Elle est fondante.
Elle
a
un goût un peu sucré, d'ailleurs, la Saint-Jacques. C'est très ronde.
Ça, c'est une entrée qu'on peut refaire très bien pour les fêtes, pour le réveillon, pour le coup. Et ça ne prend pas beaucoup de temps.
Non.
Hein.
Vous coupez la petite Saint-Jacques en trois, mettez un petit peu de fruits de la passion, et hop.
Oui, mais beaucoup de gens se mettent la pression au
beaucoup
réveillon.
Beaucoup de gens
pour
n'ont pas d'imagination.
Et vous mettez la pression pour le menu du réveillon ?
Ah ben pas du tout, parce que ça fait des années que j'ai arrêté, donc
qu'est-ce que vous
moi
faites ?
C'est fini, terminé ces conneries. Terminé.
Et vous mangez quoi ?
Mais je mange ce que je veux. je veux plus.
Oui, les fêtes prévues,
non.
Vous voulez dire, à l'avance, c'est comme le 31, l'obligation de faire la fête
fini,
le 31.
C'est terminé. Oserais-je vous faire une petite confidence ? Moi, je n'ai plus de famille, ils sont morts. Donc, je n'ai que des amis chéris. Je peux attendre un petit peu
pour les retrouver.
Avec, c'est pas un problème.
Quel est votre beau souvenir de Noël, Catherine Jacob ?
Bah justement, j'en ai pas.
Si, enfant, vous avez dû en avoir, non ?
Non, parce que ça s'est arrêté à 10 ans, parce que, et je les en remercie, mes parents préféraient nous offrir quelques jours à la montagne. Donc c'était ça ou Noël, donc c'était plutôt ça. Préférer aller faire un coup de ski plutôt qu'un gros Noël.
On est dans la saison des fruits exotiques, des litchis, de la papaye, des fruits de la passion. Quels sont vos fruits exotiques préférés, vous ?
Mais j'adore le litchi, mais c'est encore un petit peu cher.
Ça, ceux-là, ils sont chers, absolument. Ouais. Là, c'est, on est à plus de 15 euros le kilo. Hein,
ah non, même 25, hein, 25-30. Hein, ah donc il oui. faut attendre un peu quand même.
Ah oui, donc oui, là, ils
sont chers. Surtout quand on l'achète en branche.
Oui. Mais en même temps, marchés, moi, parfois, je les regarde. Au bout d'un moment, je les jette. Je préfère les regarder que les manger. Je trouve ça tellement joli. Voilà, il y a beaucoup de...
C'est beau, cette branche.
Hein. Oui, oui, il y a les feuilles. Enfin, ça dure deux jours. Mais enfin, ça m'arrive, moi, d'acheter des choses, de les regarder, mais plus longtemps que prévu.
Qu'est-ce qu'on boit avec ce Carpaccio de Saint-Jacques au fruit de la passion, Olivier ?
Ben, j'ai sorti un Chablis de la maison Drouin et je trouve que ça marche extrêmement bien parce que vous avez cette attaque un peu ronde sur le Chablis qui se marie très très bien avec le côté exotique et puis surtout le Chablis termine toujours très minéral et on a cette petite, ce raccord sur l'iodé qu'on a dans la Saint-Jacques et qu'on a dans le vin.
Bel accord, effectivement. Ouais. Ne bougez pas, on revient dans un instant et on a encore pas mal de surprises pour vous. Et bon appétit hein, si vous êtes passé à table.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Nous revoilà avec notre invitée Catherine Jacob. Le panache, l'outrance, la dérision des grandeurs, la Jacob est au cinéma ce que la pièce montée est à la pâtisserie. Too much, alléchante, étouffe chrétien à dessin. Elle est une actrice de bouche, comme on le dit, des métiers.
Ah, qui dit ça ?
Eh ben, c'est Jacques Maurice dans Télérama en 2015.
J'ai raté celui-là.
Eh, c'est pas mal, hein ? ça vous plaît ou pas comme portrait ?
Bah ouais, c'est magnifique.
Ah, moi, je trouve ça vachement
la pièce
bien.
Montée, j'étais toute seule sur ma chaise.
Eh ben voilà.
Ça c'était pour Madame ça. Et voilà,
exactement,
c'est peut-être ça.
C'était pour Madame qu'il a écrit ça.
C'est Rémi DeVos.
Et on vous retrouve lundi, je le disais, ce lundi 14 décembre à 21h05 sur France 2 dans un téléfilm qui s'appelle Hortense, inspiré d'un roman de Jacques Expert. Hein. C'est un thriller, on peut dire ça, hein.
Mais c'est très, 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 très largement inspiré, en réalité. C'est oui. un petit peu décalé par rapport au roman que j'ai lu. Et c'est réalisé par Thierry Benisti, qui nous écoute et que j'embrasse. Non, c'est un peu éloigné, franchement.
Alors, vous jouez le rôle de Sophie Delalande, qui perd sa fille, qui a 3 ans. Elle a disparu. Et 20 ans plus tard, sur un marché, sur une sorte de foire, on y revient au marché, vous rencontrez une jeune fille qui vous tombe dans les bras.
Alors, en réalité, ça n'est pas que ça, cette histoire. C'est beaucoup, beaucoup plus grave.
C'est pour ça que je ne peux pas tout dire, parce que voilà, il y a un bondissement et on ne peut pas tout raconter.
Mais c'est quelqu'un qui a l'air très socialisé. Elle est très assujettie elle-même à l'image qu'elle donne d'elle-même. Donc, rien ne dépasse. Tout est lisse, tout est machin. Et tout est faux.
Et ben voilà, pour voir une Catherine Jacob qui fait...
Tout a l'air bien et tout est faux.
Peur,
tout ce que j'aime.
Lundi, à 21h05 sur France 2, dans Hortense. Vos souvenirs de goût remontent à votre enfance, Catherine Jacob, dans l'Aisne, avec votre grand-mère Rachel.
Grand-mère picarde.
Ouais, qu'est-ce qu'elle avait de spécial,
catholique,
sa cuisine
picarde, tout était fait maison. Déjà et, ça. Et il y avait les lapins, il y avait les poules.
Et voilà, en autarcie alimentaire, pratiquement.
C'est de l'autarcie.
Et on vivait effectivement au rythme des saisons qui était capital. On en reparle beaucoup aujourd'hui, effectivement, de ce retour des saisons parce qu'on s'est habitué à manger tout le temps. Mais c'est important de manger en accord avec les saisons. Et à propos d'accord, Olivier Pouls, à cette table, comme chaque mois, va nous proposer des accords saisonniers avec du vin. Alors, on va dire que... En produit de saison, on a la Clémentine Corse en ce moment. On a le Mont d'Or, ce fromage magnifique. Et puis, je vous prends un produit intemporel comme le poulet rôti du dimanche,
bon, allez,
Olivier.
Hein allons-y, on commence par lequel ?
Allez, on commence par le fromage, par le Mont d'Or.
Ah bah oui, le Mont d'Or qui se déguste aussi bien froid que chaud. D'ailleurs, je ne sais pas si vous faites de temps en temps une boîte.
Une boîte chaude.
Une boîte chaude.
Bah, tiens.
Avec une petite goutte de vin blanc, un petit brin de romarin dedans, vous laissez ça au four. Alors, c'est un fromage, ça fait partie de ces fromages qui aiment les vins blancs. Les vins rouges sur ce type de fromage gras, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, vin blanc, je privilégie toujours l'accord régional. On va pas servir un vin jaune qu'on pourrait servir avec un comté. Je vais choisir, on va dire, un vin un peu plus classique, mais en respectant le terroir et les cépages locaux. Donc, en savagnin, pourquoi pas, ou un chardonnay, mais en version non oxydative. Et vous avez toujours cette acidité dans ces fromages qui contre extrêmement bien le gras d'un fromage qu'on va qualifier d'assez généreux quand même.
Je prends, je retiens osons. Le savagnien. Oui, osons, avec le Mont d'Or. Le poulet rôti du dimanche, alors, Olivier, ça c'est un classique. Qu'est-ce qu'on boit avec ça alors ?
On propose plusieurs accords. Alors il y en a un qui est très classique en fait, c'est un vin blanc. La viande blanche aime le vin blanc. Donc on parlait des meursauts tout à l'heure. Servez un beau meursaut avec un poulet rôti, c'est magnifique. Si vous voulez un vin rouge, optez pour un vin, là aussi, de Bourgogne, mais avec des tanins un peu tendres. Je pense à un Volnay ou un Chambolle-Musigny, par exemple. Et puis, il y a un accord qui est plus audacieux. Franchement, essayez-le un jour avec la peau croustillante du poulet. Ça marche très bien. C'est un Sauternes ou des vins liquoreux en règle générale. Le côté croustillant avec la petite sucrosité du vin, ouais, ça marche très très bien.
Et pour le dessert, je parlais de clémentine. Qu'est-ce qu'on boit avec une clémentine?
S'il reste un peu de sauterne, là c'est accord magique. Juste la clémentine, le verre de sauterne, vous avez le dessert.
Une petite salade.
Pourquoi pas des petites clémentines en jus. On a rajouté un petit peu de romarin par exemple dedans.
Vous y allez mollo avec le romarin.
Tout doucement.
C'est très dominant le romarin.
Parce que ça peut emporter tout.
Enfin, ouais, un petit peu de thym.
Elle est subtile la cuisine de Catherine Jacob. On ne rigole pas.
Une petite fleur. C'est vrai que moi j'aime beaucoup ces petites salade d'agrumes avec
ou un petit filet de miel aussi.
Allons-y sur le miel, lâchons-nous.
Mais nous avons un marché avec un très joli marchand de miel.
Oui, monsieur.
Oui.
Et ben voilà, vous nous amènerez vos adresses. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Catherine Jacob. Et chère Catherine, on va vous passer sur le grill des bons vivants. Oui, ça va chauffer, vous allez entendre. À tout de suite.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
On déplie les rallonges depuis 11h pour le meilleur de la fourchette et nous revoici avec notre invitée, la gourmette Catherine Jacob, que vous retrouverez, qui va foutre la pétoche lundi soir à 21h05 sur France 2, un petit peu dans Hortense, un peu personnage troublant quand même, Catherine Jacob, on ne peut pas en dire plus, j'ai bien compris.
Petit rapport mère-fille, quoi.
C'est ça. On parle de la table ici ce midi, vous nous confiez vos émotions depuis quelques minutes. Quelle était votre grande claque culinaire? Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre en cuisine?
J'ai eu la chance d'être invitée en Chine. Je me suis retrouvée à Shanghai. Je crois que la table faisait la taille du studio, hein, avec les plats tournés au milieu. Et on voyait arriver un truc, deux trucs, trois, 30, 45. Je ne pouvais plus oser imaginer toucher à ces plats qui étaient évidemment délicieux, plastiquement, esthétiquement, totalement sublimes.
Et oui, on mange d'abord avec les yeux dans ces pays.
C'était
quel genre de
plat?
Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi? Du poisson?
Oui, il y avait tout. Il y avait la viande, des légumes, des choses comme ça, extrêmement raffinées, avec un graphisme. Alors, c'est des grues, des tortues, des machins. Voilà, chaque fois.
Surtout qu'en Chine, on a une manière de présenter le repas qui est très différente chez nous. Il n'y a pas entrée, plat, dessert, mais
non.
Tout arrive en
tout
même
arrive.
Temps.
Exactement.
Enfin,
tout arrive en même temps, en un quart d'heure, si vous voulez. Ouais. Donc, d'un seul coup, vous avez le cerveau qui pète. C'est trop.
Et
on
ne
peut plus y toucher. C'est tellement... D'abord, c'est délicieux, mais on se dit, mais pourquoi je vais bousiller un...
Mais c'est très chinois, ça, parce que les Chinois ont peur qu'on n'ait pas assez à manger. Et ils veulent vraiment qu'on ait beaucoup.
Il y a une règle là-bas, comme ils ont un peu souffert, ils n'ont pas toujours mangé à leur faim. Quand on invite quelqu'un, il faut qu'il reste de la nourriture à table.
Exactement.
Parce que si la table est vide, ça veut dire que forcément, quelqu'un autour de la table n'a pas mangé à sa faim. Mm-hmm. Donc il faut qu'il en
reste.
Mais
là, on était 15 et je pense qu'on a eu droit à 70 plats. Comme
c'est
ça.
Beau, c'est un joli séquençage.
C'est sublime.
Les restaurants sont fermés, Catherine Jacob. Mm. Ça vous
toute
manque
ma compassion, c'est surtout ma compassion envers eux hein, quand même, parce que moi, j'ai des amis qui hurlent à la mort et d'autres qui se débrouillent assez bien avec des livraisons. Mais voilà, c'est terrifiant.
C'est vrai qu'ils ont fait preuve d'adaptation, nos restaurateurs, en faisant
oui,
du click and collect.
Quand ils peuvent,
exactement. Ouais. On pense à tous ceux qui ne peuvent pas le faire et qui sont dans des petites bourgades parfois où justement c'est compliqué, où on n'a pas la logistique pour livrer. Et puis il faut penser aussi.
Ceux qui
n'ont
pas la trésorerie d'avant.
La trésorerie.
Parce que c'est surtout ça, parce que attendre 3 mois. Certains peuvent, mais d'autres... j'ai beaucoup de tendresse pour eux. Quoi.
Oui, il faut soutenir nos producteurs aussi. Hein, on le disait au début
de
l'émission.
Oui,
pensez à acheter français, justement, pour soutenir nos producteurs qui n'ont pas les débouchés de la restauration actuellement. Il y a un restaurant en particulier qui vous manque, peut-être, en ce moment?
Moi, j'aime beaucoup Dumonet, du Cherche-Midi. Je suis très Montparnasse.
Un bistrot authentique, avec une cuisine bourgeoise, traditionnelle, magnifique. Oui.
Je me rappelle y avoir été il y a très très longtemps avec ma mère, et je lui en ai parlé. Et je lui dis, mais où est votre chariot à glace? Il me dit, il est dans la cave. Et à l'ancienne, un chariot avec, en acajou, avec deux coupoles pour mettre la vanille d'un côté et les sorbets de l'autre. Enfin, c'est de la civilisation, quoi, c'est tout.
Tenons le coup et demandons...
Et puis j'aime beaucoup la Closerie des Lilas.
Ah aussi, vous êtes belle référence.
Oui, voilà. J'aime tout ce qui est boulevard du Montparnasse, on va dire.
Tenons le coup et que nos restaurateurs tiennent le coup, surtout. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Catherine Jacob. Alors, quel est le goût de votre enfance?
Vous m'en parliez il y a exactement 3 minutes 40. C'est ma grand-mère adorée, qui était une espèce de... Presque quelqu'un sans défense, si vous voulez, qui n'était là que pour donner sur Terre. Voilà. Alors, c'est une grande claque, parce qu'après, on se dit, tiens, pas très héréditaire, je ne suis pas toujours... aussi gentille, mais...
Lucide ou...
Non, mais bon. Écoutez, il y avait tous ces petits desserts de Picardie. C'est même pas le Nord. Hein. C'est, voilà, avec son petit gaufrier électrique des années 60. Alors, on faisait des concours, oserais-je dire des concours à la con. avec mes cousins. Alors, c'était à qui on bouffait le plus, évidemment. Mais tout ça, c'est des choses... Faut être enfant pour faire ça. Hein. Il y avait les confitures maison.
Mais bien sûr.
Il y avait le beurre de la ferme d'en face.
Bien
il y
jaune.
Avait le lait qu'on allait chercher avec le petit pot en émail en face. Il y avait tout sur place, si vous voulez. Elle faisait tout elle-même, tout. Alors après, il y avait du salé. Alors les pâtés, ça me faisait un peu flipper parce que c'était mes copains, les petits lapins. Donc ça, j'ai un peu de mal. Et puis, c'était une cuisine de pauvres quand même au départ. Hein.
Qui va à l'essentiel en fait aussi, surtout.
Qui va à l'essentiel, avec ce qu'il y a, on fait des merveilles. Quoi.
Quel est le premier plat que vous avez cuisiné, Catherine Jacob?
Moi, je vais quand même avoir ma petite larme sur... un cadeau qui m'avait été fait, je crois, à Noël, à l'époque où bon, ça m'intéressait encore. C'était la pâtisserie d'un jeu d'enfant de Michel Oliver, qui a fait tous les jeudis de l'époque.
Avec les salades de betteraves
Non, c'était que des gâteaux. Alors, en général, totalement raté. On se cassait les dents dessus parce qu'on était nuls. Mais on essayait, voilà.
Quelle est votre bande originale en cuisine, quand vous cuisinez?
Moi, j'ai une tablette, alors je la tourne un petit peu, et puis j'écoute des petites émissions un peu littéraires ou historiques, comme ça, ça rentre d'un côté, puis ça ne ressort pas forcément de l'autre. Enfin.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, Catherine Jacob?
Mais ça, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Moi, sur une île déserte, j'emmène un manuel de survie et un du matériel de pêche. Voyez.
C'est ça, bah, c'est ce qu'il faut.
Bah, oui.
C'est ça. Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Mais moi, j'ai très envie de rencontrer Andy Garcia. Alors je le hurle à la mort parce que c'est non seulement l'acteur,
oui.
Non seulement l'acteur sublime qui était dans les années 90, mais qui est devenu, bon, il a 64 ans, hein, qui est devenu quelqu'un d'infiniment plus étoffé et formidable et qui produit ses films.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Catherine Jacob?
Ben je m'amuse, je suis comme une petite folle à faire des petites mousses de légumes et des choses comme ça.
On va parler d'une lotte pochée aussi.
Oui, mais ça, c'est rien. Ça. Vous faites un bouillon.
Avec une bisque de homard.
Ah bah oui.
Ah oui,
mais
bah c'est
pocher, c'est pas compliqué. Vous avez un bouillon, vous éteignez le truc, vous mettez votre poisson dedans, vous faites rien. C'est pas compliqué. Le homard, plus difficile. Mais c'est pareil que pour les langoustines. Vous ne jetez rien.
Vous on garde la carapace, rien. Les têtes et on fait la bisque.
Et les pattes et tout, vous écrabouillez tout ça. Alors, la bisque, il faut que ce soit un peu velouté. Alors moi, je déconseille la maïzena. Mais une pomme de terre, parce que ça puisse apporter
pas mal, ouais.
La texture.
Oui,
en plus du concentré de tomate aussi, il y a un peu de concentré de tomate dans
non.
La vie. Non, vous en mettez pas, vous, parce que ça donne une petite touche veloutée aussi, ça peut marcher.
Non, c'est bien pour la couleur, parce que sinon ça peut être marronnasse.
Et la texture aussi.
Pas terrible, mais la petite pomme de terre bien écrabouillée, parce que tout ce qui est un peu féculent va donner ce petit velouté. Mais il faut laisser quand même les carapaces... assaisonné de plein de petites herbes, plein de petits trucs un peu toniques et musclés.
Oui, il faut qu'elle soit relevée.
Et tout ça, après, ça passe au chinois très ouais. Longtemps.
Parce tamisé.
Que ce soit très doux.
Et très velouté, comme vous dites.
Voilà.
Et le mot de la fin, F-A-I-M.
Alors ça, c'est un truc que j'ai piqué, mais d'une façon mais éhontée. J'ai été invitée un jour à la dictée de Pivot, il y a très longtemps, à Lyon. Et derrière moi, il n'y avait que des grands chefs, enfin des sommités. Et il y en a un qui a rendu sa copie au bout de deux minutes en mettant « et merde, fin », F-A-I-M, et c'était Paul Bocuse.
C'est joli ça, ouais. Bel hommage à Paul Bocuse. Eh bien merci d'être venu à la table
merci
des
à vous.
Bons vivants. Merci
ouais,
Catherine
merci.
Jacob.
Merci.
On vous retrouve ce lundi à 21h05 dans le téléfilm Hortense sur
de
France
Thierry
2.
Benesti.
De Thierry Benesti, absolument. Merci cher bon vivant, Olivier Pouls et
vous.
Charlotte Langrand.
Merci à vous.
Merci à toute ma
portez-vous
fine équipe
bien.
De m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou, Julien Amat, Alice Foss, Jean-Luc Arblade à la réalisation et Agnès Vaudin à la programmation. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez vous abonner au podcast sur Europe1.fr. Et la semaine prochaine, nous serons avec Jean-François Piège, qui aura beaucoup de choses à
très
nous raconter.
Chic.
Très chic. Et qui nous permettra de faire un menu de réveillon de Noël pour tous et accessible, vous entendrez.
Pour une personne.
Non, pour tous.
Une semaine de boulot pour moi toute seule.
Que pour moi. Dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bon week-end sur Europe 1. Merci Catherine.
Merci.